Dans une vidéo mise en ligne en 2010, un jeune Espagnol nous vante les mérites d'un dispositif révolutionnaire de distribution du savoir reposant sur des principes bio-optiques d'une grande efficacité. J'ai nommé le livre. La vidéo est d'une simplicité assumée. Devant un fond blanc, l'animateur, habillé d'un t-shirt fluo et portant des lunettes au cadre noir, nous explique avec enthousiasme les mérites de cette incomparable innovation. Le livre tente-t-il de nous convaincre est une découverte technologique révolutionnaire. Il ne requiert aucun câble, aucun circuit électrique, aucune batterie, aucune connexion Wi-Fi. Compact et portable, il peut être utilisé n'importe où, ne requiert aucune recharge et peut être utilisé aussi longtemps que nécessaire. Le livre ne plante jamais, il ne doit jamais être réinitié et sa robustesse est inégalée. Pour nous en servir, nous n'avons qu'à l'ouvrir pour instantanément avoir accès à son contenu. Quand même extraordinaire. La démonstration est développée sur 3 minutes et reprend sur un mode légèrement ironique, évidemment, les traits usuels du livre, ses fonctions et usages. C'est un discours de la nouveauté et du progrès qui nous est servi dans une infopub minimaliste où le livre, dont nous semblons craindre la disparition, est promu au rang de dispositif écologique révolutionnaire. La vidéo nous rappelle que le livre est une technologie au même titre que l'ordinateur et les liseuses électroniques. Un produit technologique légèrement rétro dont la robustesse en termes médiatiques est depuis longtemps insurpassée. Et ce livre, avec des majuscules bien sûr, mérite d'être promu au même titre que les autres technologies. Ce sont quelques commentaires sur YouTube. La vidéo prend le contre-pied d'un imaginaire de la fin du livre qui table sur le fait que les nouveaux dispositifs de conservation et de transmission des textes vont à coup sûr faire disparaître le livre et sa culture dont la mort est annoncée comme imminente. S'il est vrai que les grands reliés rivalisent avec le livre comme support de texte et dispositif de conservation et de transmission, son apparition ne signale pas nécessairement la disparition du livre. Les deux risquent de cohabiter longtemps, mais surtout les développements de l'écran relié se sont aussi faits en émulant ou en reproduisant le format du livre, qui a ainsi continué à s'imposer comme référence. C'est dire que nous avons vu apparaître de nombreuses formes de livres-écrans, des contreparties numériques de livres qui en reproduisent des caractéristiques essentielles, notamment la présence de pages, de feuilles qui peuvent être tournées, et ainsi de suite. Dans certaines œuvres hypermédiatiques, sur lesquelles je vais maintenant m'arrêter, le livre a même été mis en scène pour ses valeurs médiatiques et symboliques, dans des œuvres qui reproduisaient à l'écran la réalité du livre. Donc, c'est à explorer de telles remédiatisations, donc c'est la notion de, bien sûr, de Walter Gruzin, de telles remédiatisations du livre que ma communication sera consacrée. Je décrirai quelques projets qui reprennent, dans des formes de remédiatisation plus ou moins assumées, la forme du livre, les uns fonctionnels, les autres singuliers, voire dysfonctionnels. Donc, la remédiatisation du livre. On tente de reproduire le livre sur Internet, la réalité du livre et de ses modes de saisie et de lecture. On se lamente sur la perte de certains aspects, du poids du livre, par exemple, de son volume, ou encore de son odeur caractéristique. Certaines de ces nostalgies sont souvent anecdotiques et reposent sur des détails secondaires qui parlent avant tout de l'attachement au livre et à son ordre. La sacro-sainte odeur du papier en est un bel exemple. Comme le souligne de façon fort ironique François Bon, il dit « Ceux qui vous répondent tant aimer l'odeur du papier n'ont pas connaissance des 4 ou 6 % de chaux vives en couches fines sur la page qu'ils respirent pour la rendre hydrofuge et économiser sur les micro-gouttelettes de jet d'encre. Ni d'ailleurs que cette odeur est plutôt celle de la colle et de l'encre que celle du papier, pendant la parenthèse, résidu de tri sélectif blanchi à l'acide puis aggloméré en mélasse colorée pour casser le blanc et ne pas se déchirer dans le nouveau roulage. » Fin de la parenthèse. Et surtout éviter en ce cas de les informer des différents composants chimiques inhalés dans cette odeur d'encre, c'est à vous qu'ils en voudraient et non pas à la chimie. Alors, évidemment, sur Internet et avec les livres-écrans, on ne reproduit pas l'odeur du papier ou les erreurs d'impression, parce qu'on peut évidemment les corriger au fur et à mesure, mais on parvient sans peine, on le voit, à conserver les fonctions les plus importantes du livre et non seulement à les maintenir, mais à les reproduire à l'identique. Ceci dit, si le numérique permet de nous séparer du livre et de sa technologie, il ne réussit pas à nous sevrer de la symbolique du livre que l'on considère depuis longtemps comme le représentant par excellence de la rationalité humaine. Quiconque un peu s'intéresse au livre connaît bien sûr tous ces discours. On a ainsi développé des pages écrans et des livres écrans, dignes reflets d'un malaise profond. Comme le faisaient remarquer déjà en 2004 Peter Stoischef et Andrew Taylor dans leur introduction à The Future of the Page, aujourd'hui, disent-ils, je traduis, la numérisation a ouvert des possibilités infinies pour des innovations visuelles et acoustiques, mais notre compréhension de ce qui constitue un texte reste ancrée dans la tradition de la page médiévale. Les deux auteurs poursuivent leur réflexion en indiquant que les développements récents font preuve d'un manque flagrant d'imagination, reprenant l'analogie du carrosse sans chevaux, pour bien sûr parler de la voiture, qui caractérisait le design des premières voitures motorisées et qui renvoie, selon eux, à, je les cite, « la tendance à concevoir une nouvelle technologie dans les termes d'une vieille technologie et par conséquent à reproduire les caractéristiques d'une vieille technologie, même si celles-ci ne sont plus fonctionnelles. Mais les caractéristiques du design traditionnel de la page sont encore très fonctionnelles parce qu'elles ont été développées de concert avec notre compréhension de ce qui constitue une information. » Tout ça vient ensemble. La remédiatisation de la page et du livre se comprennent ainsi en raison de leur efficacité plutôt qu'en raison d'une certaine fidélité à une forme pérenne. Ils restent pertinents malgré tout et à plus d'un niveau. Cette remédiatisation, et c'est ça qui m'intéresse pour le restant de cette... En fait, c'est tout un article sur l'idée de la remédiatisation du livre. Cette remédiatisation se déploie sur trois plans distincts, les plans médiatiques, sémiotiques et symboliques. Donc, pour faire bref, parce que je ne veux pas vraiment m'étendre sur ce sujet, on dirait que la dimension médiatique représente la manipulation du texte, la mise en jeu du dispositif qui en sert de support. La dimension sémiotique rencontre, quant à elle, des rapports de compréhension et de progression à travers le texte qui permettent à une première saisie d'être réalisée. La dimension symbolique, quant à elle, repose sur la mise en relation du texte avec d'autres textes qui permettent d'en établir la valeur et le sens. La dimension symbolique ouvre la lecture des textes à l'interprétation et par la force des choses, à l'imaginaire et à ses multiples interfaces. Tantôt, on a posé la question de savoir mais comment parlerons-nous de ces nouvelles formes. Y aura-t-il en fait une question pour aller avec? Alors, allons-y donc en fait sur les livres écrans. Donc, ce qui va m'intéresser surtout maintenant, c'est la dimension sémiotique, non pas médiatique ou symbolique, de la remédiatisation. Tout simplement parce qu'en faute de temps, je ne vais m'attarder qu'à cet aspect-là. Alors, évidemment, cette dimension sémiotique touche directement les processus de signification et a des impacts sur les modes de stratégie et de les stratégies de compréhension des textes. Le texte continue-t-il à se lire sans que le lecteur ne perçoive de différences notables entre les supports? La remédiatisation apparaît alors fonctionnelle, fondée sur une transparence langagière, de même qu'une iconicité tout à fait conventionnelle. La pratique de plus en plus consensuelle des livres écrans tend vers l'implantation de normes qui assure ses transparences et conventionnalités. Les livres, les revues, les journaux, je pense qu'on n'a plus besoin d'en faire la démonstration maintenant, se sont graduellement adaptés à leur nouvel environnement, cherchant ce faisant à perdre le moins de lecteurs possible. Mais comme le soulignait déjà il y a fort longtemps Roman Jakobson, la transparence n'est rien sans une certaine opacité, sans une remise en question des conventions mêmes qui sous-tendent nos échanges. La dimension métalangagière, celle dont permet justement de revenir sur la question même du message, est source d'un discours sur les formes mêmes de la représentation et sur ses capacités à rendre compte d'une situation. La transparence ne se pense qu'en regard d'une opacité plus ou moins prononcée qui, procédant par contraste, accentue les limites et frontières. Donc, à une remédiatisation fonctionnelle, répond en fait les formes plus complexes de remédiatisation, les unes singulières, vous les voyez là, les autres, dysfonctionnelle. Je m'arrêterai surtout sur les remédiatisations singulières, faute de temps. Mais sachez qu'en fait, la démonstration est beaucoup plus large. Les remédiatisations singulières exploitent une opacité langagière croissante et une iconicité de plus en plus défamiliarisante. Elles sont singulières en ce qu'elles se servent du livre comme principe d'organisation du contenu, tout en le mettant en scène comme dispositif. C'est-à-dire que la dimension réflexive de ces livres, à l'écran, est prépondérante et qu'elle est au cœur même de l'œuvre. Ces livres écrans sont des figures du livre, c'est-à-dire des livres qui ne se donnent pas à lire, mais avant tout à regarder. Des textes devenus en partie illisibles, dans lesquels l'accès aux signes et à leur sens est entravé d'une façon ou d'une autre. Ces figures de livres qui imposent le livre, bien sûr, donc comme objet, voire principe de représentation, sont apparus de façon importante au cours des 6 premières années du 21e siècle, donc entre 2000 et 2006, mais encore plus borné entre 2000 et 2006. Période où, malgré la chute du Nasdaq, la croissance du web a explosé, ce qui a accéléré le processus de transmission d'une culture du livre à une culture de l'écran et a entraîné dans son sillage le développement des esthétiques numériques. Dans ce contexte de découverte d'un espace de création d'un nouveau genre, donc le cyberespace ou Internet, aux propriétés inédites telles que l'hypermédialité et l'interactivité, le livre peut apparaître comme une référence stable et déjà maîtrisée permettant de proposer des œuvres où interactivité et narration pouvaient faire bon ménage. C'est évidemment avant l'essor du Web 2.0, de même que les tablettes à écran tactile, qui ont subitement changé la donne. C'est pour ça qu'en 2000-2006, c'est une période tout à fait intéressante. Alors, ces livres se donnaient bel et bien à lire, mais à la manière d'un avatar. À l'aide d'une souris et d'un curseur, on pouvait ouvrir le livre et tourner ses pages, faire surgir non seulement du texte et des images dans des structures tabulaires plus ou moins élaborées, mais ou séquences vidéo ou brèves... Faisant surgir non seulement du texte et des images dans des structures tabulaires plus ou moins élaborées, mais des séquences vidéo, de brèves animations qui venaient complexifier le tout. Ces livres écrans remédiatisaient le livre tout en cherchant à s'affranchir de ses contraintes. Les artistes ne tentaient pas de commercialiser un logiciel ou une plateforme, ce qui s'est aussi beaucoup vu, mais plutôt d'offrir des œuvres et sur la base d'une expérience du livre largement reconduite, de donner à réfléchir sur le statut du livre et de la lecture et de la représentation en situation de transition médiatique. Parmi les... Parmi les principales œuvres produites, on peut identifier certaines des explorations du collectif londonien de fiction numérique Dreaming Methods, fondé en 1999 par Andy Campbell, l'un des artistes peut-être les plus influents des esthétiques numériques naissantes. Entre 2000 et 2005, Dreaming Methods a mis en ligne de multiples figures du livre, que ce soit Fracture, Inside, A Journal of Dreams, The Diary of Anne Sykes, The Rot, que vous voyez là en 2004, et The Scrapbook en 2005. Ils ne sont pas les seuls. On trouve aussi, durant la même période, The Influencing Machine of Miss Natalia A. de Zoé Beloff, Work Toys de Belém Gash, 2006, Pencil in the Obvious d'Amanda Oster en 2005, la série des petits livres intégrés dans Dreamophage de Jason Nelson, de 2003, donc voici les trois livres qui sont intégrés à l'intérieur, Principe de gravité de Sébastien Clich, de même que de G.R. Carpenter, Entreville, hein, qui joue notamment moins sur un livre, mais plus sur un carnet, plein de G.R. Si on oublie Entreville de Carpenter, qui repose sous l'image d'un carnet orné d'hyperliens, de même que Pencil in the Obvious, en fait, qui se présente sous la forme de la vidéo d'un livre manipulé, on a le droit dans ce corpus à des livres de... À ce corpus, à des figures, à des représentations singulières du livre qui, bien qu'elles soient toujours fonctionnelles, en détournent tout de même la nature. La forme du livre se reconnaît sans peine. Plus souvent qu'autrement, pensez à The Root, il s'impose au centre de l'écran, se découpant sans arrière, sans peine d'un arrière-plan noir ou sombre. The Root étant en fait l'exception, mais c'est le seul livre qui est dysfonctionnel, lui, ne s'ouvre pas. Donc, au lieu d'être sur un fond noir, étonnamment, il est sur un fond blanc. On est parfaitement dans une logique de production. Donc, le livre habituellement se présente fermé plutôt que déjà ouvert. C'est une totalité qui nous est proposée, une contrepartie numérique qui reprend les traits les plus évidents du codex. Ces livres, d'ailleurs, sont rarement neufs. Leur couverture est usagée. Elle porte les signes d'un usage fréquent, d'une fabrication ancienne. Par moments, on dirait des grimoires. Sinon, ce sont des vieux livres à la couverture en cuir ornée de médaillons, par exemple. Il y a quelques exemples. Et le contenu est du même acabit. Les pages, souvent, sont cornées. Voici un exemple. Elles paraissent jaunies ou ternies par l'usure. Elles comprennent des collages, des illustrations, des extraits ou fragments écrits à la main. L'extrême contemporain, on le comprend, rejoint le séculaire afin d'enjamber la transition entre le livre et l'écran. D'autres exemples, compris la reprise d'un Don Quichotte, avec même des pages marbrées, donc on repart totalement l'esthétique du livre pour raconter une histoire. Les livres écrans s'ouvrent à l'aide d'un simple clic ou d'un mouvement de la souris qui émule le mouvement de la main. On le voit là très clairement, là, ça c'est dans Dreamophage de Nelson. Les pages se tournent selon la logique traditionnelle et elles s'offrent à l'internaute lecteur et elles offrent à l'internaute lecteur un contenu qui tient à la fois du livre et de l'œuvre hypermédiatique. Jason Nelson parle de ces émulateurs comme d'une interface pour tourner des pages, a turning page interface. C'est amusant. Façon de décrire le livre sans en mentionner explicitement la présence. Mais c'est un livre qui est lu, on ne l'oublie jamais, même si le contenu des pages prend la forme d'une vidéo enchâssée qui peut éclipser temporairement son contexte. Le livre est lu, mais la trame sonore, les images et l'instabilité du texte qui parfois se brouille et se dissout nous rappellent que nous ne sommes plus en présence d'un volume usuel. Ce sont en même temps des livres qui sont déboussolés, alors des livres déboussolés qui sont mis en scène, des narrations qui exploitent les frontières du disciple et de l'irrationnel. Si le livre vient imposer comme horizon une certaine conception de la rationalité humaine, sa mise en figure permet de l'en éloigner, voire de s'y opposer. Par exemple, Inside a Journal of Dream met en scène un vieil homme qui perd pied, graduellement intoxiqué par une fuite de gaz. Dans Dream of Age, on est plongé dans un monde où maladie, rêve et poésie s'entremêlent pour constituer un tout d'une grande absurdité. Dans The Influencing Machine, le texte traite des fantasmes et des craintes que suscitent les avancées technologiques à travers le cas d'une jeune schizophrène allemande des années 20. Dans The Diary of Anne Sykes, eh bien, on retrouve en fait le mal de vivre d'une vieille dame dépressive. Donc c'est tout le temps en fait des univers extraordinairement sombres. Le ton est lugubre, les personnages sont constamment à la limite de l'irrationnel. Les univers mis en place ne sont pas stables, au contraire, ils vacillent et se défont, comme si la reprise sur le mode virtuel du livre ne permettait plus de représenter un univers positif, mais dysphorique. Ces figures du livre ont incorporé en quelque sorte l'imaginaire de la fin du livre, fait d'un horizon court-circuité et d'une fragilisation de tous les aspects de cette pratique culturelle. Alors, je vais juste m'arrêter pour, comme dernier exemple, un peu plus longuement sur le principe de gravité. Vous allez revoir l'ensemble de ces éléments apparaître dans cette œuvre-là qui est faite par Sébastien Clich, un artiste montréalais. Alors, le projet donc, réalisé en 2005 l'a été dans le cadre d'une résidence à la Chambre Blanche à Québec. Alors, le projet se présente comme un livre à la couverture rouge et blanche et découpant sur un fond uniforme noir. Dès qu'on déplace le curseur, dès qu'on déplace le curseur dans la fenêtre du navigateur, une main surgit qui se tend vers le livre. La main tremblote à la manière d'un spectre que nos propres mouvements font disparaître. Dès qu'on clique sur le livre à l'aide du curseur, l'image de la main se stabilise et cette dernière saisit le livre et l'ouvre. Geste banal s'il en fut un. Ce qui se présente alors à nos yeux d'internautes lecteurs, ce ne sont pas des pages blanches ornées de lettres, mais une interface plus stylisée, faite de pages noires sur un fond noir, où la seule indication d'une page se profile sous la forme de lignes au centre et au pourtour du texte, vous l'avez vu, lui-même fait de lettres dorées. La première page atteinte est une table des matières constituée de cette section, abandon, futur, loisir, paresse, réussite, vie en société, ce sont les sept sections de la table des matières. Lorsqu'on s'approche d'un de ces mots, vous l'avez vu avec le curseur, une bande rouge clignotante fait son apparition qui nous enjoint à cliquer et activer l'hyperlien. On est alors projeté dans une nouvelle page. Si notre choix s'est posé sur abandon, par exemple, on arrive sur une page où à peu près, ou peu à peu, comme la trame sonore devient plus envahissante, j'ai coupé le son, apparaissent les mots « Il ne suffit pas d'abandonner, il faut résister au désir de sauvetage ». Le texte n'apparaît plus d'un seul coup, mais en trois temps. La première phrase, puis la première moitié de la seconde phrase, complétée par un autre segment qui, au moment de son apparition, clignote quelque peu lui aussi. Une photographie de la façade d'un édifice occupe le haut de la page, comme si le texte était une légende, et deux hyperliens sont annoncés, faciles à reconnaître avec leur forme triangulaire et leur couleur rouge. Deux hyperliens, c'est-à-dire deux directions possibles de lecture. Le principe de gravité offre ainsi une interactivité à l'internaute lecteur qui n'est pas minimale, mais à choix multiples. Si on choisit de cliquer sur « Résister », on rejoint une nouvelle page noire qui nous apprend que l'obstination facilite les fiascos. Deux hyperliens sont à nouveau disponibles. En cliquant sur « Fiasco », on se rend cette fois sur une page où une photo de chaudron et de poêlon pendu dans une cuisine rudimentaire surplombe une nouvelle légende. Rien ne vaut un désastre pour donner un sens à la vie. Deux autres hyperliens nous attendent. Nous sommes, comme l'annonçait Borges dans sa célèbre nouvelle, évidemment, Le Jardin au sentier qui bifurque, dans un immense labyrinthe hein, où nous sommes constamment confrontés à des sentiers qui ne cessent en fait de se multiplier. Toute nouvelle page est ainsi l'occasion d'une fonction pivot, d'un choix qui nous force à nous enfoncer davantage dans le dédale. Nous croiserons des photographies, des vidéos enchâssées dans des images, des dessins, de courtes séquences d'animation où les hyperliens seront parfois intégrés au texte, parfois insérés directement dans les illustrations. Si nous sentons perdus ou si encore nous avons rejoint un cul-de-sac, deux aides à la navigation sont disponibles. Le premier est la mention table des matières dans le pied de page, vous l'avez vu. Le deuxième est la mention index, elle aussi toujours présente dans le pied de page et qui renvoie cette fois à un index. Voici l'index. Ce dernier n'est pas composé de termes auxquels sont associées des pages, mais des 54 pages qui constituent l'œuvre. Ces entrées, vous le voyez, sont disposées en colonnes aussi nombreuses que les parties de l'ouvrage et composées d'un nombre variable de pages. Notre progression à travers le livre y apparaît explicitement marquée par un surlignement en rouge des pages consultées. Donc, plus on consulte des pages, plus on avance, bien sûr, donc plus vous voyez que apparaît le rouge. Donc, nous savons où nous en sommes, nous avons des repères comme dans un livre usuel. On se repère donc facilement. En miroir, sur la page de droite, vous le voyez se dessiner peu à peu, se profile une figure humaine dessinée à la manière d'une planche anatomique, figure que nous complétons et faisons littéralement apparaître au fur et à mesure que nous explorons les pages de l'œuvre. Corps du livre-écran et corps humain sont ainsi étroitement liés. Au fur et à mesure qu'on remplit les cases et explore la totalité du corps du texte, on complète la figure humaine qui lui sert de miroir. Cette figure représente, depuis, on comprend notre profil. Comme nous progressons dans le principe d'identité, il se complète jusqu'à rejoindre cette totalité qu'est notre figure. Un des enjeux des esthétiques numériques est de la structuration du contenu en fonction d'une hypertextualité promue au rang de principe et la non-linéarité qu'elle implique. Une non-linéarité médiatique. Un hypertexte ne se déploie pas de façon linéaire, et tantôt l'intervention de Gwen sur les fragments nous parlait bel et bien de la non-linéarité de l'hypertextualité, mais donc ne se déploie pas de façon linéaire, mais labyrinthique, puisque chaque nœud peut donner lieu à un nombre élevé d'hyperliens. Or, le récit requiert une linéarité médiatique pour progresser. C'est la ligne du discours. Comment raconter une histoire si le lecteur peut choisir son propre chemin? Les effets de suspense et les structures narratives complexes se dissolvent dans l'hypertextualité. En ce sens, le choix du livre, d'une figure du livre comme canevas et univers de référence, devient une solution viable, bien ponctuelle, à ce problème. Même présent sous une forme métaphorique, le livre, mise en figure, permet de remettre du linéaire dans le non-linéaire. En reprenant une forme et des habitudes d'organisation d'un contenu qui ont depuis longtemps fait leur preuve, page, numérotation, titre de section, table des matières, index, et ainsi de suite, le livre-écran de Sébastien Clich favorise une mise en récit et permet de renouer avec des formes narratives plus traditionnelles, bien que soumises à une importante fragmentation, tout en médiatique que structurale. Et bien sûr, donc, vous voyez, donc, une fois complété, notre profil est complet, et je vais m'arrêter parce que je suis en train de dépasser le temps. Ce qui est assez fascinant avec le livre de Clich, c'est que, bien sûr, toute son esthétique, c'est une esthétique de la dépossession, de la ruine, de la totalité. Le succès, c'est l'échec, et ainsi de suite. Donc, il met sans dessous la logique prévalente d'une totalité comme étant quelque chose de très positif. Lui, il nous fait exactement le contraire. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on a enfin, en bon petit gestaltien, complété la forme, bien, la première chose qu'on fait, bien sûr, c'est qu'on se rend compte qu'on a échoué. Et pour moi, il y a là tout à fait un commentaire sur le livre qui est, oui, le livre, on peut le reproduire à l'écran de façon à pouvoir se servir de ses fonctionnalités, mais ce faisant, ben, la réussite de cette représentation-là est aussi un échec complet du procédé lui-même. Donc, c'est un peu ce qui m'intéressait dans le principe de gravité. Alors, voilà un peu ce que je voulais donner à l'écran.